Oui, juste donc quelques mots pour d'abord vous remercier à toutes et à tous de votre présence et puis remercier tout particulièrement donc les établissements MOLA de leur accueil ici dans ces salons et puis bien sûr accueillir Benno Barnard. Je laisserai peut-être le soin à Philippe-Henri Ledru et de présenter un petit peu cet auteur, mais je voudrais surtout souligner que le Conseil général est particulièrement attaché donc à la fois à ce moment, à cette rencontre, et puis plus globalement à ce concours citoyenneté européenne, donc avec l'ensemble des collèges de Gironde. C'est, vous le savez, une action qui s'inscrit dans la Semaine nationale d'éducation contre le racisme. Et c'est vrai que la période que nous vivons nous conduit, je crois, à nous mobiliser plus que jamais sur ces thèmes de l'éducation contre le racisme. Et puis cette mobilisation autour de la citoyenneté européenne. Et avoir ainsi un auteur, un écrivain qui, au sein des collèges, puisque nous sommes là sur l'une des premières compétences du Conseil général, l'action en direction de nos collégiens, me conduit à penser que vraiment ce concours citoyenneté européenne qui est porté donc par le département, par l'Académie de Bordeaux et par l'association France Liberté. Jacqueline Madrel pourra donc tout à l'heure marquer tout son intérêt pour ainsi ce concours et cette implication qui en fait un des véritables temps forts de l'action du département. Je voudrais vraiment remercier Benno Barnard. J'ai eu l'occasion à Lormont de l'accueillir à l'occasion de la mise en place du programme local de citoyenneté et du comité du conseil local de citoyenneté. Il y a quelques jours de cela, il a pu ainsi s'imprégner d'une mobilisation des différents acteurs associatifs et des acteurs des villes également, qui, grâce au Conseil général et dans le cadre du Conseil départemental de la citoyenneté, donc se mobilise sur ce thème-là de la citoyenneté européenne. Voilà, je sais que nous pouvons remercier à lui, remercier tout particulièrement également Jacqueline Madrel, ces 12 collèges qui ont été ainsi rencontrés, un 13e je crois demain. Et lorsque, en début de son séjour, j'avais eu l'occasion de rencontrer Benno Barnard, il m'avait mis en avant un emploi du temps et ainsi une imprégnation, si j'ose dire, dans le territoire girondin avec des journées particulièrement remplies. Voilà, je voulais le remercier tout particulièrement. Et puis, maintenant, Jacqueline Madrel, au nom de l'association France Liberté Gironde, et Philippe-Henri Ledru pourront présenter l'auteur. Jacqueline.
Merci, Monsieur le Vice-président. Merci, Jean Touzeau. Merci, Jean, pour ta présence. Je voudrais vous remercier à tous aussi, aux adhérents de France Liberté, aux amis de France Liberté, aux partenaires de cette association. Je vois Ahmed Serrage, le directeur du Boulevard des Potes, et Monsieur Patrick Hude, le directeur ou président de la Ligue de l'Enseignement, enfin des associations partenaires et amis avec lesquelles on travaille sur d'autres sujets comme notamment la laïcité et le vivre ensemble. Donc on rejoint à travers ces problématiques et ces sujets, on rejoint tout à fait la citoyenneté européenne. Donc je voudrais remercier notre ami Benno Barnard, qui est cette année l'invité donc à la fois du Conseil général, de l'inspection académique et de France Liberté. Et je voudrais le féliciter doublement parce qu'il est obligé de faire cavalier seul. Normalement, vous savez que dans le cadre de ce concours, ils sont toujours deux auteurs. et que là, Jean Larson, ayant déclaré forfait très peu de temps avant le début de cette semaine nationale éducation contre le racisme, notre ami Beno est obligé de se débrouiller seul, et je dois dire qu'il le fait très très bien, parce que pour l'avoir accompagné dans un certain nombre de collèges, il n'a pas une tâche facile. Moi, j'ai été dans certains collèges et je dois dire qu'en contact des quatrièmes, des classes de troisième, parler de l'Europe, c'est souvent abstrait. Et Beno Barnard a un grand mérite parce qu'il essaie de rendre concrète, de montrer que l'Europe, ça peut être quelque chose de concret. Et Beno Barnard, tout à l'heure, Philippe Henry vous le présentera mieux, mais bon, est de nationalité néerlandaise. Il vit à Bruxelles, sur la frontière linguistique de Bruxelles. Il est marié avec une Américaine, il a vécu un peu dans l'Europe entière, donc c'est un citoyen du monde. Et il montre aux élèves l'importance de l'apprentissage des langues étrangères. Pourquoi ? Parce que grâce, alors en l'occurrence à l'anglais, puisque c'est ici souvent leur première langue, il leur montre que c'est très important de pouvoir bien se débrouiller justement pour abattre ces frontières, ces frontières qui sont uniquement linguistiques, mais qui sont les vraies frontières. Il leur montre que s'ils n'ont pas ce passeport, s'ils n'ont pas cette langue commune, ils ne peuvent pas se rencontrer, ils ne peuvent pas échanger, ils ne peuvent pas construire ensemble. Donc je pense que moi, à chaque fois que j'ai été dans les collèges, et parfois la tâche est très difficile, et que Beno, qui répète partout qu'il n'est pas enseignant, je crois que Beno, tu as un vrai talent de pédagogue. Mmh. Et vraiment, félicitations, parce que parfois, la tâche est très ardue. Et je pense que, bon, grâce au travail qui est fait en amont avec les enseignants, s'il y en a dans la salle, je voudrais les féliciter, les chefs d'établissement, il y aura des traces, il restera des choses. Et il est là aussi, c'est pour ça qu'il rentre bien également dans le cadre de cette Semaine nationale d'éducation contre le racisme, parce qu'il est là aussi pour lutter contre les préjugés. Et quand il explique que la situation à Bruxelles, la situation des Bruxelles qui est le cœur de l'Europe, et que montrer qu'est-ce que c'est que la belgitude, cette façon de vivre ensemble, d'apprendre à vivre ensemble avec des univers linguistiques différents, qu'on vit en paix. Et quand on parle dans les médias de différents très importants, de presque de guerre, que c'est vraiment pas la guerre et que le sang ne coule pas à Bruxelles. Et merci aussi là de rétablir une réalité et une vérité. C'est là où, je veux dire, France Liberté, on est aussi dans cette lutte contre les préjugés, contre les idées toutes faites, contre la politique, un petit peu le politiquement correct. Donc merci aussi de rétablir cette vérité-là. Et puis ce que je voudrais dire, alors parfois c'est vrai que l'Europe, elle est un peu, on pourrait dire, comme pour reprendre le terme de Husserl que j'ai découvert là en lisant le livre de Semprin sur l'Europe, on pourrait dire qu'il disait dans sa conférence de Vienne en 1935 que ce qui menace le plus l'Europe, c'est la lassitude. On s'en rend compte aujourd'hui. Mais c'est pour ça que cette présence d'auteur est importante pour montrer que l'Europe, c'est à l'heure actuelle peut-être un des rares et un des seuls espaces de paix. Donc on est tous concernés par cet espace de paix et les jeunes, cette double identité qu'ils doivent acquérir, comme tu leur montres tous les jours. Beno, je crois qu'il faut qu'ils prennent conscience de l'importance de cette acquisition de cette double identité, que c'est une richesse aussi. Et je dois dire qu'au mois de janvier, j'avais été au Goethe-Institut. Le Goethe-Institut à Bordeaux avait organisé une conférence avec les Maisons de l'Europe, et notamment avec Catherine Lalumière, qui est présidente de la Maison de l'Europe. Et avec, il y avait le professeur Gautron, prof de Sciences Po de droit européen. Et donc, il y a eu deux parties. La partie très institutionnelle de l'Europe, faite par le professeur Gautron, et une partie beaucoup plus, on va dire, vivante. Qu'est-ce que l'Europe, l'Europe des traités, l'Europe juridique, ça fonctionne, ça marche. Mais par contre, il y a l'Europe vivante, l'Europe des peuples, ça semble en panne. Et ce qui m'a un peu confortée dans l'idée d'avancer dans ce concours et de poursuivre ce concours sur la citoyenneté européenne, Catherine Lalumière disant il n'y a qu'une chose, c'est la pédagogie. Et la pédagogie, c'est l'école. Et c'est à travers l'école, à travers cette incitation à penser l'Europe, l'Europe des peuples, une Europe fraternelle, on pourra peut-être faire avancer les choses. Alors je me suis dit, bon, finalement, même si ça paraît difficile, même si parfois Beno, il sort découragé de ses rencontres avec les élèves. Je me dis, il faut quand même continuer, puisque c'est par la pédagogie, par l'école, qu'on peut faire avancer les choses. Alors rien que pour ça, je voudrais le remercier.
Bon, bonsoir. Moi, je ne sais pas ce qu'il me reste à dire, parce que M. le vice-président a dit la moitié, Jacqueline Madrel a dit la moitié, et la troisième moitié, je sais pertinemment que ce que je pourrais dire, Monsieur Beno Barnard le fera beaucoup mieux que moi, puisque nous avons accompagné effectivement Monsieur Barnard Beno dans les collèges, et comme l'a souligné Jacqueline Madrel, il se présente et présente son être, sa belgitude, sa flamitude, son européitude, avec brio. Alors je ne sais pas si l'Europe sera belge ou ne sera pas, comme l'écrivait un grand quotidien régional, que je ne citerai pas. Toujours est-il que la biographie de Benoît est un véritable métissage, un casse-tête pour les gens qui sont les farouches défenseurs, entre guillemets, d'une identité quelque peu recroquevillée. C'est un casse-tête vivant, parce que, bien sûr, oui, il est néerlandais, qu'il a quitté très tôt. Son père, je répète hein, tout ce que j'ai entendu, son père était enseignant en Belgique. Il s'est d'abord établi à la frontière allemande, ce qui lui a permis d'apprendre l'allemand. Ensuite, il est venu donc en Belgique. Il s'est installé à Bruxelles. Ensuite, il a séjourné dans quasiment tous les pays européens, parfois assez longtemps, d'ailleurs comme en Angleterre. Bon, il parle couramment anglais. Son épouse, comme disait Madame Madrel, est américaine. Et il vit, c'est vraiment un avantage, à la frontière linguistique entre la Wallonie et la Flandre, si bien qu'il fait des allers-retours. Mais le français n'est que sa quatrième langue, et je crois savoir également que tu parles l'hébreu, ou tu le comprends. Voilà, donc c'est un métis européen, comme nous essayons de l'être aussi, et surtout de montrer aussi à nos élèves, comme on le disait tout à l'heure, quels sont tous les avantages, les richesses, et de ce plurilinguisme d'une part, et de la mobilité dans cet espace européen qui est un espace de culture, trop souvent assimilé aux aspects négatifs de la communauté européenne, on va dire, mais une Europe aussi qui peut être, et c'est ce qui se dégage aussi lorsque l'on rencontre les élèves dans les collèges, une Europe qui aussi tient des valeurs de ce conseil de l'Europe que l'on connaît moins, qui est où le problème des frontières aussi là se pose moins, mais où les idées maîtresses sont quand même particulièrement humaniste et peut-être plus susceptible d'intéresser nos jeunes. Il a la chance, c'est vrai, quand on parle de l'Europe et faire venir quelqu'un qui habite à une frontière linguistique et non pas une frontière, je dirais, institutionnelle, frontière politique, quelqu'un qui habite à quelques minutes de Bruxelles, à quelques minutes d'Anvers en Flandre, à une bonne demi-heure de Lille.
Tu exagères.
Trois quarts d'heure.
À une heure vingt minutes de Paris.
Parce qu'elle est à côté.
Chez nous, on a beaucoup plus proche de Paris que chez vous.
De Paris.
C'est pas forcément un avantage, d'ailleurs.
Avec le tunnel, on est facilement également à Londres. Je veux dire, il a la chance d'habiter dans une région, on est tout près de l'Allemagne, du Luxembourg. Donc, cela génère quand même des possibilités de déplacement qui sont très, très enrichissantes. Alors, Benoît n'est pas seulement une biographie vivante, intéressante, mais également un auteur qui s'est essayé à la fois à la poésie romantique, on va dire au début, d'après ce que écrivent les critiques, au théâtre. Il a adapté des pièces néerlandaises d'une part, écrit lui-même des pièces de théâtre. Un essai en particulier sur l'Europe dont il va nous parler, et puis un texte assez surprenant qui s'appelle La Créature, qui est un hommage, une commande aussi, un hommage à une femme vieillissante, à une carrière, à une personnalité, mais de ces quatre de ces œuvres, Benoît, vous en parlez beaucoup plus et mieux que je ne saurais le faire.
Merci Philippe, vous restez ici ou vous vous mettez dans la salle ?
Ouais.
Oula. Donc, vous êtes loin, et cette table est gigantesque, mais je vais faire un effort de vous gagner. Merci tout le monde ici. Je dois dire que j'ai pas mal voyagé dans ma vie, mais nulle part j'ai été accueilli avec une telle chaleur qu'ici à Bordeaux. C'est pas un mensonge poli, c'est vrai. On est vraiment devenu des amis. C'est pour ça que j'ai dit tu. Parce qu'en France, c'est compliqué, hein, avec tu et vous. Pendant les semaines passées, je suis transformé en professeur de l'Europe dans les collèges de la Gironde. Ça m'a beaucoup plu, mais c'était tout à fait nouveau pour moi parce que je suis pas professeur. Et si parfois je donne un cours, c'est à l'université et c'est pas aux enfants de 14 ans pour qui l'Europe en effet est assez loin parfois. Mais aussi au collège, l'accueil a été énormément chaleureux. Et les enfants, en général, ont vraiment montré un vrai intérêt. Et parfois, déjà écrit des choses là-dessus. Par exemple, aujourd'hui, j'étais où ?
À Virac.
Oh, excusez-moi. Où les enfants avaient écrit 27 poèmes. Sur chaque capitale dans l'Union européenne. Donc j'ai trouvé ça merveilleux. Et je vous donne deux exemples. Bruxelles, évidemment. C'est l'image de Mannequin Pisse. Vous savez bien que notre Saint-Paul est un petit enfant nu qui pisse. Ça dit quelque chose sur la belgitude et notre convivialité, je dirais. Enfant de bronze s'oubliant à la vue des passants. Sous le regard amusé des gens, jadis fier de son attitude effrontée, aujourd'hui il est lasse de se soulager. Travesti au fil des saisons, plusieurs légendes circulent autour de ton nom. Enfant du pays qui est le tien, comme nous tous, tu es européen. Et l'autre, encore un peu plus profond, sur Berlin. Berlin, roi d'un empire malveillant, désormais, phénix resplendissant, il fut un temps où les hommes en désaccord décidèrent arbitraire de couper ton corps. C'est aujourd'hui le temps des fusions, unis comme dans une harmonie aux accords, chantons ensemble un air encore, construisons ensemble notre Europe, notre nation. Il faut se rendre compte, ce sont des enfants qui ont souvent jamais été à Paris encore dans leur vie. Mais le professeur m'a assuré qu'ils ont vraiment une certaine image déjà de l'Europe grâce à l'Internet, grâce à leur professeur, évidemment. Ce qui me mène à un sujet principal, en fait, dans mon œuvre, l'Europe. L'Europe, pour moi, c'est l'Europe de mon père. Mon père était prisonnier de guerre à Berlin en 44 et 45 et il est toujours, parce qu'il a 90 ans presque, mais il est toujours en bonne santé, il est totalement traumatisé par la guerre. Ma mère aussi, parce que ma mère est née à Rotterdam, une ville détruite par la Luftwaffe en 40, comme vous le savez bien. Et donc, avec mes deux sœurs, j'ai vraiment passé une enfance, comme beaucoup de gens de ma génération d'ailleurs, j'ai 55 ans, sous l'ombre de la guerre encore. Et ma mère n'a pas pu parler de la guerre, et surtout pas de ses expériences en Allemagne. Ma mère en a raconté plus. Par exemple, nous, on n'a jamais pu dire « j'ai faim ». C'était défendu. Parce que la faim, ça, nous, on ne connaissait pas. La faim, pour elle, c'était l'hiver de 44 et 45, quand on a vraiment, littéralement, dû manger des fleurs. Hey, j'ai un dictionnaire pour ça, pour des circonstances. Bulbs.
Des bulbes.
Bulbes de tulipes, voilà, c'est ça, j'ai toujours ça sur moi. Des bulbes de tulipes, donc la fin, nous, on ne connaissait pas. Mais mon père, finalement, il y a 10 ans environ, 10-12 ans, il a commencé à raconter des histoires là-dessus. D'abord, on avait fait un voyage à Prague ensemble, donc à travers l'Allemagne, en train. Et je me souviens, c'est un truc dont je parle dans ce bouquin, « Fragments d'un siècle ». C'est vraiment le livre en prose sur l'Europe que j'ai écrit. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu sens maintenant en Allemagne? C'est la nuit, c'est le train, l'association est évidente. Et il m'a, pour la première fois, il m'a montré quelque chose de ses mémoires, mais aussi de son peur, de sa peur de nouvelles guerres, par exemple. Là-dessus, je peux vous donner un exemple assez remarquable. J'ai célébré mon deuxième anniversaire à Londres. C'était en 56. Pourquoi? La Russie était à Budapest. Et mes parents étaient tellement effrayés par la possibilité d'une nouvelle guerre qu'ils ont pris les enfants à deux valises et sont allés à Londres. Donc on a passé trois semaines dans un hôtel à Londres. Et c'est là que j'ai célébré mon deuxième anniversaire, dont je ne me souviens rien du tout. Mais bon, en tout cas, ça dit quelque chose sur une génération. Puis, après notre voyage à Prague, il m'a donné son journal intime écrit pendant la guerre. Et j'ai utilisé beaucoup de choses dérivées de ces expériences, comme décrit par un très jeune homme, parce qu'il avait 23, 24 ans à l'époque. Évidemment, ça m'a énormément influencé. Donc la guerre était toujours là, bien que je suis d'après la guerre. C'est une sorte de témoignage de l'Europe de mes parents, comme moi je l'ai vécu dans leur mémoire, pour ainsi dire, si vous me comprenez. Parfois je m'exprime un peu maladroitement en français, mais je fais un effort. Parce que c'est vrai, j'ai passé mon enfance en Hollande à la frontière allemande, à 20 km de la frontière allemande. Mon père a refusé de jamais mettre pied en Allemagne, mais il m'a toujours dit, il faut pas parler de la Bosch parce qu'ils ont changé. Et la langue allemande est une belle langue. Parce que la poésie de Goethe, d'Hölderlin et des autres, c'est pas la SS. Il faut bien comprendre ça. Donc ça j'ai aussi toujours trouvé assez remarquable de non tellement traumatisé. Il était d'ailleurs... D'abord, je vais vous raconter autre chose. Donc, chez nous, on a pu regarder la télévision allemande, à l'époque déjà, avant la câble. Ce que nous, on a fait en tant qu'enfant. Donc, l'allemand, pour nous, était proche et n'était pas trop compliqué. Le néerlandais et l'allemand, c'est un peu comme l'espagnol et l'italien. Aussi, l'anglais qu'on a appris à l'école comme deuxième langue, comme première langue étrangère, pour nous est assez facile. Quand j'entends les efforts que font les jeunes collégiens pour s'exprimer en anglais, j'ai fait plusieurs fois un petit théâtre avec eux. Imaginez-vous, la fille est polonaise, le garçon est espagnol, vous vous rencontrez à Amsterdam, il faut communiquer, qu'est-ce qu'on fait en anglais? Pour eux, c'était... Évidemment, sous le regard de 60 autres élèves, mais c'était vraiment dur de parler anglais. Bon, j'ai dit, pour moi, il est comparablement dur de parler une langue latine. C'est aussi loin pour moi, mais à travers ma faute, et j'en suis conscient, j'ai fait beaucoup de fautes, mais comme ça, j'ai finalement appris un peu à apprendre le français, parce que pour nous, le français était la troisième langue étrangère, qu'on a étudiée comme le latin, comme une langue morte. Vraiment, comme ça, on a lu le français. Donc, à 19 ans, en quittant le gymnase, ça s'appelait le gymnase chez nous, donc l'Athénée, j'avais lu Baudelaire, j'avais lu Chateaubriand, j'avais lu Tout le monde, mes chers collègues morts, mais j'ai pas pu parler français du tout. Et j'ai commencé à voyager en France, mais je dis toujours aux enfants dans les collèges, imaginez-vous la France de vos grands-parents. À l'époque, il y a 30 ans, l'enfance de vos parents, quoi. La France était un autre pays. L'Europe a changé, la Hollande a changé, la Belgique a changé, mais la France a beaucoup plus changé, parce que la France était un pays à... comment dire ? Chez nous, mon professeur de français me disait « J'aime la France, mais c'est un pays autiste ». Il voulait dire « Les Français, à l'époque, je parle d'il y a 30 ans, avaient peu voyagé ». Ne parlait pas d'autres langues en général. Donc, évidemment, la France, c'est 17 fois la Hollande, c'est 20 fois la Belgique. Donc, la surface géographique, pour commencer, est déjà quelque chose de, pour nous, d'inconnu. En plus, les étrangers qui étaient en France, dans mon expérience à l'époque, moi je parlais donc un français épouvantable, mais j'ai essayé de communiquer. Ben, souvent, on a rigolé. On a rigolé. Donc c'était pas trop agréable toujours. Mais ça, c'est une expérience de Moyen-Âge. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, les Français sont énormément accueillants, pas seulement en Gironde d'ailleurs, parce qu'ils apprécient, à travers les enfants qui sont obligés d'apprendre l'anglais, l'espagnol, vous avez apparemment, je ne parle pas de vous personnellement, mais les Français ont finalement compris comme c'est dur d'être européen et de devenir polyglotte. Et je dis toujours, bien que j'aime beaucoup l'Angleterre, j'aime beaucoup la langue anglaise, la poésie anglaise. Les Anglais sont les seuls qui n'ont toujours pas compris que l'Europe est un continent polyglotte. Et ils ne veulent pas faire partie de l'Europe, mais ils veulent bien le dominer, surtout dans la langue. Question de la langue. Ça m'énerve, mais bon. Mon père était professeur d'hébreu à l'université de Bruxelles, bien qu'il n'est pas juif d'ailleurs. Et il a fait la navette entre Arnhem, vous connaissez peut-être la bataille d'Arnhem, l'Est, bon, on a habité près d'Arnhem, dans un petit village. C'était pas le port d'air, hein, c'était la colline et les forêts. Et il a fait la navette, il m'a pris avec lui à Bruxelles quand j'avais 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et j'ai toujours aimé Bruxelles parce que déjà, quand j'avais cet âge-là, j'étais fasciné par le fait que c'est une ville bilingue. J'ai lu les noms de rues en deux langues. Les panneaux en deux langues. Aujourd'hui, c'est souvent en trois langues, hein, aussi en anglais. Et je me suis dit, bon, c'est la frontière de ma langue et ça me plaît. Et c'est pour cette raison que à 19 ans, après l'école, je me suis déménagé. J'ai déménagé à Bruxelles, où j'ai pu pratiquer mon français. Ça a commencé avec les noms des rues, donc j'ai appris des mots comme toison d'or et écuyer, énormément pratique dans la conversation, mais bon. Donc j'ai pu réanimer la langue que je connais en forme écrite. Bon, tout ça évidemment joue un rôle dans ce livre, mais aussi dans les autres livres. Puis j'ai rencontré ma femme qui est américaine, donc anglophone. Elle a appris le néerlandais et le français. C'est une très bonne Belge. Elle a adopté la nationalité belge d'ailleurs. Et maintenant elle travaille pour le Parlement européen. Et par conséquence, nos deux enfants qui ont 11 ans, notre fille est adoptée. Il y a une différence de 2 semaines. Vient d'Inde d'ailleurs, de l'orphelinat de Mère Thérèse. Ils sont bilingues. Néerlandais, anglais, mais une anecdote que je raconte toujours aux élèves, parce que pour eux c'est intéressant. Chez nous, le long de la frontière linguistique, on habite à 20 km de Bruxelles, il y a pas mal d'écoles en Wallonie qui ont introduit le système de la filière immersive. Ça veut dire que 2/3 de leurs leçons sont en français, 1/3 en néerlandais, afin qu'ils puissent devenir bilingues. Et avoir un bon boulot à Bruxelles, finalement. Évidemment, la troisième langue, c'est l'anglais. Mais l'anglais, ça devient beaucoup plus facile du moment qu'on parle néerlandais et français. Pour eux, ça commence à 4 ans. Et mon fils est dans cette filière immersive. Mais pour lui, donc, c'est plutôt l'immersion en français. Donc, maintenant, à 11 ans, il parle 3 langues. Mais ce sont les circonstances. Il a pas bête, ça c'est clair, mais ce sont les circonstances linguistiques de la proximité de l'autre langue qui l'ont rendu possible pour lui de devenir trilingue. Ma fille est toujours en première. Donc, c'est pour ça aussi que je raconte toujours aux élèves, oui, une frontière linguistique dans un pays, et il y en a beaucoup en Europe. Il y en a beaucoup. L'Espagne, on parle quatre langues en Espagne. Hein. On dit toujours l'espagnol, mais c'est pas vrai. C'est le basque, le catalan, le galicien. Reconnu par l'État espagnol, pas reconnu par Bruxelles. Je demande toujours aux élèves, il y a combien de pays dans l'Union? 27. Et combien de langues on parle en Europe, dans l'Union? 10? 20? C'est officiellement 23. C'est-à-dire tous les documents sont traduits en 23 langues. Mais en réalité, environ 50. C'est-à-dire que la Belgique est assez normale avec deux langues. Hein, à la moyenne, c'est deux langues par pays. Donc, le désavantage d'une frontière linguistique, en fait, est un grand avantage. Et je dis aussi pour vous, jeunes Européens, il y a une autre proximité. C'est une proximité culturelle. La proximité culturelle de l'anglais. Le fait que l'anglais est dans votre musique, dans votre ordinateur, etc. Bon, on parle là-dessus et je crois qu'ils ont bien compris ça. Donc, les autres choses... Donc, ce livre-ci agit de choses pareilles, mais d'un point de vue très, très, très personnel. Les autres livres, j'ai écrit, je crois, une dizaine de bouquins, mais en français, il y a trois, donc Frappant de siècle. Puis, il y a le Naufragé, c'est un bouquin de poésie, une édition à la belge, parce que c'est la version néerlandaise à gauche, et la version française, donc c'est l'original, la traduction française à droite. Donc j'ai dit toujours, c'est ça la frontière linguistique, là, entre les deux. Quand même, si vous me permettez, je vais vous lire quelques poèmes, pas trop. Et après, je vous parlerai un peu de la créature. Qu'est-ce que je vais vous lire? D'abord, un poème... Hein? Ah, je sais ce que... Je lis toujours un très petit poème... sur un bisou, donc les enfants 14 ans, ça sera très important pour vous. C'est un baiser à Bruxelles, c'est vraiment très petit, donc je vous lirai le texte de la version originale en néerlandais et puis en français. C'est sur une photo prise à la Cambre, c'est un grand parc à Bruxelles. Een kus in Brussel. Hier staan we te verstijven in een park. Een kus voorkomt dat men mijn adem ziet. Mijn hand blijft steken in een teer gebaar. Ik wil je loslaten, maar kan het niet. Mijn vingers zijn de feiten in je haar. Wij zijn in het ter kamere van een seconde koude geliefden die met maartse monden elkaar een kus geven als een citaat. Après, je dis toujours, donc maintenant, vous connaissez le mot pour baiser en néerlandais. Oui, oui, kus. Donc, un baiser à Bruxelles. Nous voici dans un parc frigorifié. Mon souffle invisible sous un baiser. Ma main se figeant dans un geste tendre. Je veux te lâcher, mais ne le peux. Mes doigts faits d'hiver dans tes cheveux. Nous sommes à la Cambre, les âmes en froid d'une seconde qui, avec des bouches de giboulée, se donnent la citation d'un baiser. Bon, maintenant je vais vous lire encore deux poèmes. Mais c'est où? C'est où? Mais je vais seulement lire la version française. Langue maternelle, c'est un poème écrit in memoriam ma mère. Donc il s'agit de ma mère, mais aussi de ma langue maternelle. J'y ajoute, peut-être vous connaissez pas, l'Amstel, c'est la fleuve à Amsterdam où je suis né. J'ai pas passé mon enfance là, mais bon. Langue maternelle. Ah, aussi, il faut dire, je l'ai écrit quand je vivais en Anvers. J'ai aussi vécu en Anvers. Langue maternelle. Vous avez le blanc visage du lait que j'ai bu dans la maison de l'Amstel où je suis né. Oui, Paris, vous allez encore au printemps, mais l'été débordait de votre deux pièces et ce fut novembre, et la pluie et les crépuscules remplirent la vitre. Un 19e siècle posa sa pâle main sur ma vie. Maman, je sais bien, j'étais une fleur rebelle au calice rose, je n'ai pas changé, je suis quelqu'un, personne, homme du bas pays. Et grande gueule, encore toujours je suce la canzone que je trouve si délicieuse. Encore toujours ma plus ancienne voyelle s'émerveille de ma voracité, de ma satiété. Toute ma vie j'aurais mangé du lait. Vous me rappelez des choses que je n'ai jamais sues. Vous faites des vers, comme j'ai dit, et m'atterrez dans la toile de la chanson. Aujourd'hui, vous étiez à nouveau ma gouvernante, avec son chignon. Aujourd'hui, nous avons fait la rationalité, la moralité, le vol des oiseaux et Dieu, un peu. Je n'ai commencé à vous aimer qu'ici, à Anvers, comme une fiancée aux yeux meurtris, bleuis, et au cœur de lionne. Souvent au bar, vous bavardez, mais vos jambes nues sont entrelacées afin de protéger le petit fauve. J'avale vos diphtongues comme des hosties et je vous appelle chérie, car quelqu'un doit vous appeler ainsi sans ironie. Je vous amène à la maison et dans mon sommeil, j'entends vos talons incertains sur des losanges luisants de pavés. Katinka, c'est le nom que vous donna mon nouveau père. Vous êtes ma mère qui ne m'écoutait pas, mais qui parlait à en imprimer mes murs. Ô mère morte, demain viendra une autre nuit où je noterai, je n'appartiens pas que à moi. Et finalement, je vous lirai un poème que j'ai écrit sur Anvers. Donc, vous savez, Anvers, c'est un peu comme... c'est Lescaut. Lescaut de Émile Verhaeren, que vous connaissez sans doute, un auteur que j'aime beaucoup, que j'ai traduit d'ailleurs. C'est drôle parce que c'était un flamand, mais à l'époque où les écrivains flamands ont souvent écrit en français. Et, donc, on m'avait demandé d'écrire un poème sur Anvers, et je me suis rendu compte que la chose principale pour moi d'Anvers, c'était la fleuve. Et je me suis imaginé la situation dans l'époque de Jules César, 50 ans avant Jésus-Christ, avant qu'il n'y avait une ville nommée Anvers. Donc c'est tout à fait imaginaire, mais après quelqu'un m'a dit « mais il s'agit simplement de ton fils qui venait d'être né ». Pêcheur, 50 ans avant Jésus-Christ. Qu'ai-je fait d'autre au bord de la rivière que poser des nasses écoutées de vieilles histoires sanglantes en grognant, la pénétrer et faire un fils doré pour après moi? Bon, c'était autrefois. Mais c'est sur cette rive qu'il m'advint par clair de lune, comme je nouais des filets, de grommeler quelques mots étranges à l'adresse des ténèbres boisées là-bas, mots que je ne compris pas moi-même, à propos de Butor, par exemple, et non de héros. Qu'étaient-ce? D'où venaient ces mots et pourquoi cherchèrent-ils ma bouche, la bouche d'un homme, dans un simple bateau sur Lescaut? J'écoutais nos exégètes, mais sans savoir s'ils pouvaient expliquer la terre marécageuse. Je ne crus jamais que nous bâtirions des cathédrales, ce genre de choses. Comprends-moi de travers, si tu peux. Dans un méandre de la grande rivière, j'ai pu faire un fils, et dans la lumière brumeuse de l'aurore, je lui ai appris mes nœuds. Voilà, c'était la poésie. Merci. Donc finalement, la créature, en fait, c'est une actrice flamande très très connue, un vraiment monstre sacré, pour ainsi dire, Chris Lhomme, d'origine française d'ailleurs, qui m'a demandé d'écrire un monologue poétique pour elle. Et je lui ai dit, elle a maintenant peut-être 70 ans environ, à l'époque 60, mais comment est-ce que je vais faire ça? Je comprends rien des femmes. Et elle a souri et m'a dit, mais pourquoi tu fais pas un interview avec moi et tu l'enregistres et tu prends le matériel et tu t'en fais quelque chose. Donc j'ai fait ça. Pendant toute une journée, j'ai fait une interview enregistrée avec elle. Et elle m'a raconté toutes sortes de choses sur sa vie, mais aussi des choses assez intimes sur la vie d'une jeune fille, d'une jeune femme. Des choses dont, en général, les hommes et les femmes ne parlent pas du tout. Et puis, pareil, j'ai fait... Bon, ce n'est pas tout à fait son autobiographie, mais ce qui est vrai, elle est née à Coutray, une ville flamande, près de la frontière française, où dans son époque, dans son enfance, la petite bourgeoisie a souvent parlé français, un français assez poilu, on dit chez nous, donc un français assez flamand, pour montrer sa culture. Et elle a détesté ça, elle a détesté sa mère, elle est allée à Bruxelles et devenue comédienne en irlandais, bien entendu. Donc c'est ça, mais elle est tout à fait bilingue, donc c'est très drôle. Je vais vous lire un petit... un passage, voyons, oui, son père est déjà mort, et elle, Coco, elle s'appelle Coco. Bon, et maintenant, maman, la province s'approche par-delà les places de parking trop nombreuses, des cubes de son hôpital, néons irrités dehors et dedans, langage aseptisé à la réception. Couloirs qui font signe et médecins pressés aux blouses blanches qui voltigent, tout est nu, comme traité au rayon. Ici, je dois, depuis des semaines, apprendre à parler avec ces 84 années moribondes. Le cancer jusque dans la bouche. Me voici assise près de son lit de mort. Elle porte la robe d'être dormeur de monde antique que j'ai connu. Elle est étendue dans une barque métallique pour les morts. La chienne grince, ses doigts griffent en direction du rive sans herbe, sans roseau, de la rive calcinée d'une jeunesse d'entre-deux-guerres. Tantôt, en haletant, elle serre son squelette. Tantôt, elle adresse un geste énergique au crucifix sur l'autre rive et mâche hargneusement la pièce glissée sous sa langue. Elle est toujours lucide. Me voici assise près de votre lit de mort. Avec un reste de sourire, vous dites dans votre plus beau flamand, « Coco, j'ai été si souvent jalouse de toi. Est-ce grave pour toi ?» Je dois parler pour accepter le passé, pour changer sa signification. Dire que ce n'est pas grave pour moi. Expliquer qu'une personne telle que moi connaît deux possibilités, la gloire ou le couvent. Être aimé ou aimé. Comment faire? Dis-le, j'ai mis le Christ de céramique rose qui se tord collé à cette croix depuis les années 60 et je mens aussi honnêtement que je puis. Et la nonchalante accolade blanche d'une mouette nous embrasse un instant dans le reflet de votre fenêtre au-dessus du conteneur à ordures. Et la mort est un homme charmant dans un imperméable, un vis-à-vis dans le train. Nous avons le temps d'un voyage à l'étranger. Et l'homme bourre tranquillement sa pipe et nous sommes témoins du feu qu'il insuffle à son tabac, il donne du feu à notre cigarette et une sorte de parole étonnamment autonome nous vient sur la langue et la tenace mauvaise herbe bleue de notre nostalgie éclose sur la vitre et prolifère jusqu'au cœur de la nuit. Notre vie est un rêve manifeste dans le dernier train de Courtrai à Courtrai. Nous avons le temps, maman, nous avons le temps. Que marmonne l'abricot putrescent de votre bouche? Il faut que tu saches que papa et moi, nous n'avons jamais été heureux. La lumière vibre. la chambre blêmie, au rédempteur muet de terre cuite, et pitié de cette peau violette, de cette chair spongeuse, de l'abandon avec lequel ma mère avoue et donne-moi une cigarette. Sauve-moi et donne-moi une cigarette. Je bredouille. J'ai raté. Cigarette, cigarette. Ce n'est pas un langage d'hôpital, Coco. Divinité tourmentée, je dois fumer. Mère qui mourait, je dois fumer. Tais-toi, mon enfant. Ta gueule. Ta gueule. Ta. Mais puis ça continue encore.